Au mois d'octobre, l'accord économique CETA entre le Canada et l'Europe a été rejeté par le ministre-président de la Wallonie, Paul Magnette. En effet, il s'opposait à certaines conditions de l'accord qui faciliteraient le libre-échange entre l'Europe et le Canada. Cette région francophone de la Belgique, qui compte 3 millions d'habitants, a pu remettre en cause un accord qui touche 500 millions d'Européens. Cette remise en question de l'accord, qui est une sorte de manifestation, est un des exemples les plus récents d'un peuple minoritaire qui utilise son droit de veto pour maintenir ce qu'il estime être ses droits socio-économiques. Aujourd'hui, Charlotte Provost, éditrice du programme International Business and Economics, et Megan Vizette, éditrice du programme Women and Security, participent à ce podcast pour parler de la situation politique des peuples minoritaires francophones dans le monde d'aujourd'hui. Donc, bonjour les filles.
Bonjour.
Megan, en tant que Wallonne qui a grandi en Belgique, que penses-tu du discours souvent péjoratif sur les Wallons par rapport à l'accord CETA?
Je suis d'origine wallonne, mais j'ai une perspective bruxelloise aussi parce que j'ai vécu la majorité de ma vie belge à Bruxelles. Donc, de par cette expérience, je trouve que c'est une force aussi pour voir les différents partis à la crise du CETA. Donc, ce que je veux dire par rapport au dire sur les Wallons, on a eu beaucoup de choses, si je peux rappeler, sur le fait que les Wallons faisaient juste blocage au CETA comme une forme de protestation envers la région flamande ou le Parlement fédéral de Belgique. Mais comment je me sens, c'est plus une vue logique de la problématique, dans le sens où beaucoup de stratifications communautaires ont été poussées vers l'avant pour cette analyse du blocage pour le CETA, du fait que les Wallons, par leur spécificité linguistique et socio-économique, bloquaient le CETA. J'aimerais juste appuyer que beaucoup des revendications wallonnes étaient basées sur des études qui ont été faites au cours des 7 ans de négociation du CETA, des études par des think tanks qui montraient le danger de cet accord de libre-échange entre l'Europe et l'Union européenne, plus particulièrement au niveau des agricultures. On a eu un article récemment par Charlotte et Michael qui ont fait une très bonne analyse de la situation socio-économique de la Belgique et de l'Union européenne, dans le sens où la Wallonie compte majoritairement sur son économie d'agriculture. Ce qui fait en sorte que dès que quelque chose touche au bien-être ou même au pouvoir des agriculteurs, ça va faire un problème. Historiquement aussi, dans le sens où on est une région plus agricole parce que pendant la révolution industrielle, on avait beaucoup plus de pouvoir au niveau des ressources, on avait plus de pouvoir au niveau des premières industries qui participaient au développement économique du pays. Alors que la région flamande, comme on l'a dit dans ton article, Charlotte, c'est que ça comptait beaucoup plus sur une économie de services. Ce qui fait que, finalement, la région wallonne a une spécificité plus socialiste que libre-échangiste. Souvent, les tangentes socialistes vont plus avoir un problème avec des accords de libre-échange parce qu'il y a moins de protection, finalement, pour les travailleurs et pour les petites et moyennes entreprises qui essayent de se développer dans un environnement qui est très fragile en ce moment en Europe. Deuxième point, je pense aussi, c'est que ça a appuyé sur la valeur démocratique des manifestations de la Wallonie pour un système belge qui est finalement, quand on regarde un peu plus, qui n'est pas spécialement si démocratique que ça. C'est un système très complexe avec 7 parlements, comme je l'ai dit. Il faut que chacun soit en consensus pour pouvoir passer un accord. Donc, c'est très facile à un moment donné qu'il y ait une espèce de relan contre la démocratie parce qu'on veut faire passer des accords plus vite. Parce que veut pas, d'avoir le consensus avec tout le monde, ça prend toute la vie.
Ouais.
Puis on a eu ce problème-là aussi pour même arriver avec un gouvernement en Belgique. On a passé plus de 1 an sans gouvernement. Parce qu'on n'arrivait pas à arriver à un accord entre les différentes strates de la population belge. Donc, en tant que Wallonne, finalement, c'est pas tellement le fait que je sois Wallonne qui me pousse à dire que ces manifestations étaient fondées. c'est plus le côté logique et analytique de la chose. Mais ça a été cadré par des mouvements politiques comme quelque chose de foncièrement wallon, de foncièrement anti-libre-échange.
C'est vrai, parce que, comme tu l'as mentionné, j'ai écrit un article là-dessus, j'ai focalisé vraiment sur l'aspect économique de l'accord, mais reste que dans mes recherches, j'arrêtais pas de frapper des articles qui attaquaient quasiment le peuple wallon pour être anti-libre-échange, et comme si quasiment ça leur tentait d'arrêter juste pour le fun l'accord, mais c'est vraiment pas... Mais justement, quand on regarde un peu plus de près le contexte politique de la Belgique, on réalise que l'Union européenne doit justement gérer ces systèmes politiques divers au sein de l'organisation pour s'assurer que ces accords y passent. Donc, justement, le problème, c'est pas nécessairement au sein de la Wallonie, mais plutôt au sein du système politique, pas nécessairement belge, mais aussi de l'Union européenne.
Exactement.
Est-ce que leur système fonctionne bien? C'est ça les questions qu'il faut poser. Est-ce qu'il y a place à réforme pour changer pour que ces accords-là soient plus faciles à passer, ou est-ce que c'est un système qui est plutôt démocrate et qu'il faut rester avec un système comme ça? En tout cas, c'est pour un autre podcast, mais c'est intéressant de voir que vite on va s'attaquer à un peuple minoritaire, vite on va les accuser justement de mettre fin à un accord juste parce que c'est ça leur croyance. Quand, en réalité, c'est plutôt un côté technique et politique.
C'est sûr qu'un énorme accord de libre-échange qui a été temporairement arrêté par un peuple de 3 millions de personnes pour un accord qui touchait à 500 millions de personnes, même si le raisonnement était socio-économique, comme tu nous l'as montré, pour les médias et pour l'extérieur, c'est plus facile de pointer du doigt à un peuple qu'à un système socio-économique qui est un peu plus compliqué à expliquer, qui est un peu plus compliqué à pointer du doigt.
Et qui est censé être réformé aussi.
C'est ça.
Mais qu'on ne réforme pas parce que c'est plus facile de rester dans le statu quo. C'est aussi le système européen, tu sais.
Mm-hmm.
Comment différents systèmes politiques arrivent à se mettre d'accord ensemble pour avoir des représentants européens? Mais finalement, peut-être que les représentants européens vont être, dans le cas de la Belgique, majoritairement de tranches plutôt libérales ou centre-droit, alors que le petit côté wallon ici est majoritairement socialiste et centriste. Donc comment trouves-tu ta voix dans des décisions européennes qui vont te toucher toi aussi, mais dont ta voix ne compte peut-être spécialement pas beaucoup si tu ne fais pas quelque chose?
C'est sûr. Et ça, c'est un problème de structure politique, puisque c'est pas du tout un pays où le gouvernement est unitaire. Il est très, très fédéral. Mm-hmm. Et comme tu l'as dit, ça marche pas dans le contexte. Mm-hmm. Ça marche pas facilement, disons, dans le contexte de l'Union européenne.
Ce fut un plaisir de vous parler de ce sujet, mais il va falloir en rester là. Donc, merci Mégane et Charlotte.
Merci.
Merci.
À la prochaine.